écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Mendil. Nariman, bonjour.
Rostom, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, les modalités de distribution et d'acquisition des 10 000 bus importés seront définies en réunion du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et des Transports l'a annoncé hier. Plus de 6 000 bus sont déjà réceptionnés. Les bombardements sur l'Iran en cause de lourds dégâts. Près de 20 000 bâtiments civils sont détruits, dont des écoles et des hôpitaux. L'Iran cible désormais des intérêts économiques américains et sionistes. Téhéran pose des conditions fermes pour envisager toute négociation. L'Algérie s'apprête à lancer ses premiers modèles d'intelligence artificielle, des modèles adaptés à nos valeurs. Des start-up sont engagées dans cette voie. Attention aux faux sites et aux arnaques dans les paiements en ligne. La Direction générale des impôts appelle les citoyens à bien vérifier avant de procéder au paiement sur toute plateforme de la direction. Plus que quelques jours avant l'Aïd, la solidarité s'organise pour permettre aux enfants des familles démunies d'avoir des vêtements neufs pour l'occasion. Le Croissant Rouge prépare 50 000 colis. Et sport handball, tirage au sort aujourd'hui pour les rencontres de la Coupe d'Algérie de la discipline. Bonjour à toutes et à tous. Plus de 6000 bus de transport des voyageurs sont déjà importés, réceptionnés pour renouveler le parc vieillissant. Les bus en circulation depuis plus de 30 ans seront petit à petit retirés de la circulation. Mais comment ces bus importés seront distribués? Qui pourra en bénéficier? Comment procéder? Des questions ont débattu hier au ministère de l'Intérieur et des Transports. Le ministre avait reçu les représentants des syndicats des transporteurs en marge ou au lendemain de l'adoption du projet de loi sur le code de la route à l'APN, Hanan Saïsi était présente.
Au cœur de la rencontre, la question des modalités d'acquisition des bus importés dans le cadre du plan de renouvellement du parc automobile.
Monsieur le Président de la République a pris l'initiative de ramener 10 000 bus en Algérie. Il reste les modalités, comment distribuer ces bus, qui sont les transporteurs qui vont bénéficier et les modalités.
On veut aussi un accompagnement pour les transporteurs, surtout pour l'acquisition des bus au niveau des banques.
Le ministre nous a promis de mettre un mécanisme pour changer les véhicules plus de 30 ans.
Du côté des pouvoirs publics, la réponse se veut rassurante, les modalités et mesures d'accompagnement seront incessamment finalisées. Jamal Din Abdelghani Dridi, secrétaire général du ministère des Transports.
C'est une instruction de M. le Président de la République qui a été concrétisée immédiatement. Bien sûr, un travail collégial entre le ministère de l'Industrie, le ministère des Transports et des partenaires, nos amis de la Défense. Sur les 10 000 bus destinés à l'importation, nous sommes à 6 000 et quelques bus importés. Il y a une séance de travail qui aura lieu d'ici la semaine prochaine. Un travail basique a été fait avec nos amis de l'industrie pour arrêter les modalités de paiement. Il a été décidé de retirer du parc auto les bus dépassant 30 ans d'âge et permettre aux opérateurs d'acquérir ces nouveaux bus.
Un processus dans lequel le partenaire social représenté par les syndicats sera pleinement associé.
Les transporteurs, donc comme tous les autres automobilistes, doivent s'acquitter de la vignette automobile. Sa vente a commencé le 1er de ce mois et se poursuivra jusqu'à fin mai. L'acquisition peut se faire justement en ligne. Un appel lancé aux citoyens pour faire preuve de vigilance absolue lors de l'utilisation des services de paiement en ligne. Un appel qui intervient suite à la recrudescence des risques de cyberfraude. La Direction générale des impôts qui rappelle que les sites gouvernementaux sont facilement repérables.
Face à la multiplication des services administratifs en ligne, un nouveau danger prend de l'ampleur, celui des sites frauduleux qui imitent presque parfaitement les plateformes officielles. Derrière ces pièges numériques se cachent des méthodes bien rodées utilisées par les cybercriminels. Jalel Bouabdallah, expert en transformation numérique et protection des données.
Trois techniques pour piéger les internautes. Créer de faux sites qui imitent les plateformes officielles, diffuser des liens frauduleux par SMS, email ou réseaux sociaux et utiliser des messages alarmants pour pousser la victime à agir rapidement. Le premier et principal danger est le vol de données personnelles, numéro de carte d'identité, informations bancaires, mot de passe. Ces informations peuvent être utilisées pour des fraudes financières directes ou pour des usurpations d'identité, ce qui peut entraîner pour la victime des problèmes juridiques alors qu'elle n'y est pour rien. Le second risque est l'installation de logiciels malveillants sur l'appareil de l'utilisateur à son insu et enregistrer tout ce que l'utilisateur saisit.
Alors comment éviter de tomber dans le piège et quels sont les réflexes simples qui peuvent faire toute la différence?
Vérifier le nom de domaine réel du site et de s'assurer qu'il appartient bien à l'institution officielle. Il ne faut jamais accéder à un site administratif via un lien reçu par SMS, par email ou même via une publication sur les réseaux sociaux. Toujours préférable de taper soi-même l'adresse du site ou d'utiliser l'application officielle. Tout site qui vous demande des informations bancaires sans raison claire ou qui vous met sous pression avec des messages du type « votre compte sera suspendu dans 24 heures » est très probablement une tentative de phishing.
Dans un contexte où les services numériques se développent de plus en plus, la vigilance numérique devient aujourd'hui une véritable nécessité pour chaque citoyen.
Développer des modèles d'intelligence artificielle algériens, c'est le projet sur lequel est lancé le ministère des startups. Il a été évoqué hier lors de la visite du ministre dans la wilaya de Médéa. Des modèles d'intelligence artificielle adaptés à la nature de la société algérienne, à ses besoins, pour accompagner les évolutions et les tendances mondiales liées à cette technologie, Samial.
Un défi omniprésent à l'ère du numérique, comment s'adapter et mieux faire face aux multiples évolutions rapides de la technologie, notamment l'intelligence artificielle, une transformation qui pousse de plus en plus de pays à investir dans ces nouvelles technologies afin de suivre le rythme d'une évolution numérique en constante mutation. L'Algérie s'apprête à son tour à développer des modèles dédiés, capables de prendre en compte les spécificités linguistiques, culturelles et socio-économiques du pays. L'objectif est de favoriser une utilisation maîtrisée et pertinente de l'intelligence artificielle. Khaled Basta, entrepreneur spécialisé dans la robotique et les nouvelles technologies, a déjà expérimenté avec l'intelligence artificielle pour développer ses prototypes.
Parler de l'intelligence artificielle made in Algérie n'est pas seulement une ambition technologique, c'est une question de souveraineté stratégique. On parle beaucoup de souveraineté nationale. On doit développer nos propres logiciels, notre propre intelligence artificielle qui peut grouper différents secteurs dans le domaine de l'industrie, dans le pharma, tout ce qui est agri-tech. Je pense que c'est à la venir aussi. Quand on doit développer un modèle d'IA, c'est qu'on doit le développer selon notre marché algérien, selon notre mentalité, selon notre culture, selon notre langue. Les compétences, on en a. Je pense maintenant qu'on doit développer beaucoup plus des data centers spécialisés dans tout ce qui est intelligence artificielle.
Il est question de s'appuyer sur l'expertise nationale et sur les compétences émergentes pour promouvoir des solutions technologiques en phase avec la nature de la société et ses besoins, tout en favorisant l'innovation et la construction d'un écosystème algérien dédié à l'intelligence artificielle.
Et à l'ère du numérique, la protection de la donnée devient une priorité. L'Autorité nationale de protection des données personnelles balise l'usage des données récoltées par les systèmes de vidéosurveillance sur le lieu de travail avec l'exigence d'une déclaration de conformité par les entreprises. Plus d'une centaine d'entreprises publiques, privées, étrangères déposent chaque semaine leur déclaration auprès de l'autorité, assure Aissaoui Boualem, représentant ou son représentant Aissaoui Boualem. Il était l'invité du jour ce matin.
On reçoit pratiquement une centaine de dossiers par jour. Donc nous avons remarqué qu'il y a une adhésion forte au niveau du secteur économique privé et public. Beaucoup plus, il y a aussi des sociétés étrangères qui sont là établies en Algérie. Nous avons les administrations publiques, les institutions publiques, tout ça. Donc ça commence à prendre forme. Aussi l'autorité, elle peut intervenir, elle intervient par le biais de ses auditeurs, de voir si les organismes ayant donc eu l'autorisation, enfin la déclaration d'utilisation de traitement des données personnelles, elle peut constater s'il y a un dépassement dans l'utilisation de ces déclarations. Parce que là, dans la déclaration, on encadre, on balise en quelque sorte le traitement de la donnée elle-même.
Le représentant de l'Autorité nationale de protection des données personnelles précise que ces nouvelles mesures visent à protéger le travailleur sur son lieu de travail de l'usage abusif des données personnelles récoltées et à créer un climat professionnel sécurisé. Des représentants de l'Autorité nationale de protection des données personnelles feront des opérations de contrôle régulières dans les entreprises.
C'est un mécanisme qui peut être utilisé comme étant un mécanisme de vérification de la présence des personnes sur les lieux de travail. Ils sont obligés d'informer les employés du procédé. Généralement, c'est réglé dans le cadre de la convention collective du travail. C'est pour renforcer un environnement sécurisé, pour respecter les droits et les spécificités des personnes, le droit à l'information, le droit d'accès, le droit de rectification et le droit de l'opposition. Il peut demander l'annulation de cette image, la rectification, et que cette image ne peut pas être utilisée à autre fin que pour lesquelles elle est destinée, et peut même faire une opposition au niveau de l'autorité.
L'actualité, c'est également ces bombardements qui se poursuivent sur l'Iran. Ils causent d'importants dégâts. Les universités ou l'université Azad iranienne annonce que 42 académiciens et diplômés de l'université ont été tués dans ces bombardements qui ont également causé la destruction de 20 000 bâtiments civils, dont des écoles et des hôpitaux. Les perspectives d'un dialogue entre l'Iran et les États-Unis est un enjeu crucial pour éviter un embrasement total. Téhéran pose désormais des conditions pour envisager toute reprise des négociations, parmi lesquelles des garanties fermes contre toute nouvelle attaque, la reconnaissance du droit de l'Iran à disposer d'un cycle complet de combustible nucléaire, ainsi qu'une compensation pour les dommages subis, alors qu'ils ont toujours rejeté l'idée d'un programme nucléaire iranien élargi. Les États-Unis sont-ils prêts à accepter de telles conditions? Éléments de réponse avec l'analyste politique Kamel Benyounis. Il est contacté par Rabea Slimani.
Déclaration d'experts américains et d'experts internationaux et aussi de certains responsables connectés aux négociateurs, y compris négociateurs omanais et russes et chinois. Il paraît qu'il y a des initiatives pour arrêter la guerre car le coût économique et politique de cette guerre pour l'administration Trump et pour l'économie américaine est très lourd et la prolongation de la guerre est très lourde aussi bien pour l'entité sioniste que pour Washington. L'Iran arrête les tirs sans contrepartie, c'est exclu. Donc le scénario probable, c'est des concessions américaines, y compris le retour à l'accord de 2015 sur le nucléaire pacifique et surtout le fait de mettre fin aux sanctions. Il s'agit de 150 milliards de dollars iraniens qui sont encore confisqués aux États-Unis. Mais il est exclu, selon mon avis, que les États-Unis acceptent de mettre fin à toutes les sanctions, de rendre tout l'argent de l'Iran.
Et au 12e jour de cette guerre, l'Iran menace de viser les intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à l'entité sioniste, alors que le premier ministre de l'entité sioniste appelle au renversement du pouvoir en Iran. On écoute une nouvelle fois l'éclairage de l'analyste politique Kamel Benyounis.
Il y a l'aspect médiatique de la guerre. Netanyahu est un criminel de guerre depuis les années 90. Il est le dernier à donner des leçons sur la démocratisation. Le peuple iranien, dans tous les cas, ne va pas céder. On peut faire tomber des leaders politiques, mais on ne peut pas faire tomber tout le régime avec des attaques aériennes et d'une agression militaire étrangère. Les Américains peuvent assurer leur supériorité technologique, leur supériorité sur l'espace iranien, mais ils n'auront jamais l'occasion de maîtriser le terrain. Parmi les dimensions de cette guerre, il y a l'aspect médiatique, mais aussi la dimension financière. Et ça a été prévu. Je pense que l'Iran, qui se préparait à cette guerre depuis 47 ans, va résister. Bien sûr, elle va souffrir. De même pour les autres, mais les États-Unis et l'entité sioniste ont des réserves de pétrole et d'argent. Ils ont des réserves énormes. Ils peuvent résister.
Les prix justement du pétrole suivent, ou les marchés pétroliers suivent de près cette guerre. Le baril de Brent affiche 90 dollars ce matin. Les marchés qui restent fortement perturbés. Plusieurs pays envisagent même de libérer leurs stocks stratégiques. Et à midi 44 minutes, retour chez nous. Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires de Burjbeji Murtar. Quatre éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés et des armes récupérées. C'est le bilan rendu public par le ministère de la Défense nationale, bilan hebdomadaire, donc celui de la semaine écoulée. Par ailleurs, 29 narcotrafiquants ont été arrêtés et des tentatives d'introduction de plus de 4 quintaux de kif traités par les frontières avec le Maroc ont été déjouées. On parle de Ramadan, c'est le mois de la consommation par excellence. La demande sur les produits agroalimentaires explose au point d'inciter les entreprises à mettre place ou à mettre en place des dispositifs spéciaux pour augmenter leur production. Erim Boukadoum.
Les industries de l'agroalimentaire adaptent leur stratégie pour répondre au pic de consommation enregistré durant le mois sacré. Agrodiv mise notamment sur le renforcement de la production, l'augmentation des capacités de stockage et des opérations de déstockage afin d'éviter toute pénurie ou déstabilisation du marché. Selim Jnaihi, directeur général du groupe.
On produit 60 000 quintaux jour pour la semoule et 67 500 quintaux de farine et 220 000 litres d'huile de table.
De son côté, l'entreprise Ifri renforce également son réseau de distribution et sa logistique pour assurer un approvisionnement régulier du marché et répondre à la demande des consommateurs. Morad Boato, responsable des relations publiques de l'entreprise.
Nous avons une flotte de 900 camions de produits en temps disponibles à travers tout le territoire national. Nous avons aussi une équipe de superviseurs qui fait le suivi de cette distribution.
Du côté de l'entreprise agroalimentaire Mahbouba, le dispositif de production a également été renforcé afin de répondre à la demande. Son directeur général Abbas Ben Amara souligne que l'entreprise mobilise ses capacités industrielles pour accompagner cette dynamique de consommation.
On a installé récemment une ligne, elle a démarré il y a 2 mois. Avec ça, on arrive à peu près à 45 tonnes par jour.
Les mesures prises par les industries de l'agroalimentaire contribuent à stabiliser l'offre sur le marché et à limiter les tensions sur les prix, évitant ainsi une éventuelle hausse durant cette période de forte consommation.
À l'approche de Eid al-Fitr, la solidarité s'organise pour permettre aux enfants issus de familles nécessiteuses d'avoir des vêtements neufs pour cette fête religieuse. En plus des différentes associations, le Croissant Rouge s'apprête à lancer la distribution des vêtements. Les détails avec Mohamed Amzian, représentant du Croissant Rouge. Il en parle à Sarah Hafrsès.
On a déjà commencé depuis quelques jours une vaste opération de distribution des vêtements et d'aide pour les orphelins et plusieurs familles défavorisées. Ce programme prévoit la distribution de plus de 50 000 aides en coordination avec les autorités locales et nos partenaires. Des visites pour rendre la joie aux malades hospitalisés et d'autres visites au centre pour personnes âgées.
À Bouira, des circoncisions gratuites sont programmées. Le Croissant Rouge local appelle également la générosité des citoyens pour offrir des vêtements neufs aux petits. On écoute Ahmed Smaoui, président du bureau communal du Croissant Rouge. Il est au micro de notre correspondant Arish Chachoua.
Concernant l'opération de circoncision au niveau de la wilaya, nous avons environ 500 enfants concernés. L'opération commence aujourd'hui dans la commune de Bouira. Nous allons prendre en charge 150 enfants et il en reste encore 50 que nous ferons dans 1 ou 2 ou 3 jours. Nous collectons aussi les dons de l'Aïd, des vêtements pour les enfants issus des familles démunies. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous aider afin de garantir cette initiative, d'aider les familles et de leur apporter de la joie pour terminer le Ramadan dans le bien et la sérénité et célébrer l'Aïd en bonne santé.
Alors que Météo Algérie a émis de nouvelles alertes météo concernant notamment les wilayas du Sud qui sont concernées par des vents violents, on rappelle qu'hier soir, il a beaucoup plu, notamment sur Alger. L'accumulation des eaux pluviales a bloqué plusieurs quartiers de la capitale. Il a fallu des interventions des équipes d'Asroute pour aspirer les eaux et dégager les routes. Les détails avec Yasmina Lawari, chargée de communication de l'EPIC. Elle est contactée par Mehdi Haddaoui.
Suite aux intempéries qui ont touché la capitale hier, nos équipes opérationnelles, en collaboration avec les services et les compétences de la wilaya, ont procédé à plusieurs interventions dans les zones ayant connu d'importantes stagnations d'eau, comme Afrevalon, Abelkhadem, Abelmoradraye, c'est au niveau de la route nationale 38. Les opérations ont consisté à l'aspiration des eaux stagnantes, l'enlèvement des terres charriées depuis les chantiers en hauteur. Nous avons dégagé la route afin de rétablir la circulation et on passe un petit message aux citoyens, faire preuve de vigilance. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants, preuve de leur sens de devoir au service des citoyens.
Culture à présent, le Festival National de la Musique Chabi se poursuit au Palais de la Culture et la relève est assurée pour ce genre musical. Un concours est même organisé en marge de ce festival. Salim Brahimi.
Il s'agit d'une compétition qui oppose des candidats issus des quatre coins du pays devant un jury qui les évalue sur plusieurs critères. Khaled Chahlel, membre du jury.
Les capacités vocales, l'authenticité du texte, la maîtrise du rythme, est-ce qu'il maîtrise l'instrument avec une bonne présence sur scène?
Pour cette deuxième soirée, le plus jeune des candidats s'appelle Larbi Bouamran Islam, 20 ans, il nous vient de Miliana.
C'est une nouvelle expérience et ça sera ma première scène.
Brahim Rabah de Skikda, il a grandi avec la musique chahlel. Bouawina Tahar est candidat de Béjaïa. Il ambitionne de se perfectionner.
C'est ma deuxième participation dans ce concours. Mes ambitions, c'est d'apprendre, de me corriger.
Le coaching artistique a été introduit dans la 15e édition du festival. De quoi il s'agit? Sidi Ali Lakam, coach artistique.
Le candidat, tu le mets sur la raille.
C'est le conseil anti-track.
Le 15e festival national de la chanson Cherbi se poursuit avec 5 autres candidats en compétition pour découvrir leurs prestations. Une seule adresse, le palais de la culture Moufdi Zakaria d'Alger à partir de 22h.
Et on passe au sport avec vous, Roustomi Hayeshrif. Bonjour.
Bonjour.
On va parler handball d'abord et le tirage au sort pour la Coupe d'Algérie.
Qui vient de débuter au siège de la Fédération Algérienne de Handball à Dilibrahim. Chez les messieurs, 21 clubs, je rappelle, ont confirmé leur engagement. Il s'agit principalement des équipes du championnat Excellence A et B, mais aussi ceux qui évoluent dans les divisions inférieures. Chez les dames, 11 clubs seulement ont déposé leur engagement pour prendre part à cette nouvelle édition de la Coupe d'Algérie. À commencer par les gros calibres du championnat, dont le détenteur du trophée, le Handball Club d'El Biar, le Mouloudia d'Alger, mais aussi le finaliste malheureux de la précédente édition, le club féminin de Boumedes. Les huitièmes de finale sont programmés pour le 1er mai prochain, alors que les quarts de finale sont prévus le 15 mai. Puis la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions européenne ce soir à partir de 18h, le Bayer Leverkusen avec Brahim Maza face aux Gunners d'Arsenal à 21h, trois chocs, PSG tenant du titre face à Chelsea, Real Madrid, Manchester City de Ryan Aitnouri et la surprenante équipe norvégienne de Bodo Glimt face aux Portugais du Sporting.
C'est cette information sport qui clôture les pages de cette édition réalisée par Selma Feguir et Aïcha Hammer. Mourad était à la technique, Tahar à la régie d'antenne et Shiraz au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention.